Nous sommes déjà nombreux.
Oui. Voilà, on va commencer. Meïr, tu enregistres, c'est ça? Notre ami Meïr?
Oui, ça y est, c'est déjà en cours.
Ok, alors on va commencer. Bonsoir. Alors, la question que je me pose, c'est que là, nous vivons une période unique peut-être dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire une plaie impalpable qui frappe tout le monde. Et disons qu'on s'en sorte... On ne sait pas de quoi demain va être fait. On entend des gens que l'on connaît très très bien qui décèdent. Là, il y a dans la choule où je vais le Shabbat, il y a un fidèle qui est décédé. Là, voilà. Donc. C'est des choses très, très, comment dire, même il faisait vraiment partie de l'âme de la choule qui n'est plus parmi nous. Et donc, lui ou d'autres, donc c'est des choses extrêmement concrètes. Et personne, me semble-t-il, sur Terre aujourd'hui sait de quoi demain va être fait. Ce qui m'interroge aussi, c'est que ici en France, il y a 2 mois, tout le monde ne parlait que d'écologie, transition écologique, féminisme, que sais-je, etc. Et tous ces blablas s'écroulent par le fait qu'on ne sait pas du tout où on va. On ne sait pas du tout. De quoi demain va être fait, comment on va passer Pessah, on ne sait rien du tout, personne ne sait, les sommités ne savent pas, donc c'est quelque chose de très très impressionnant, d'un côté quelque chose d'assez exaltant, si ce n'était que c'est pour beaucoup de personnes dramatique, je parle à des amis extrêmement proches, comment tu vas, et ben, des amis très proches qui sont atteints par cette maladie, et c'est presque majoritaire des gens qui sont atteints, des gens qui ne sont pas atteints. Alors comment survivre? Comment vivre? Alors la question aussi, c'est que, me semble-t-il, qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est que les Chachamim nous disent, il faut faire tshuva un jour avant de mourir. Là-dessus, la Gemara dit, excusez-moi. Allô? Oui. Comment? Merci. Regarde, je suis en cours, mon petit-fils. Je suis en cours. Hein? Merci. C'est vrai, c'est notre anniversaire. C'est vrai, tu as raison. Merci beaucoup, Eliakim. Merci. Voilà. Au revoir. Mon petit-fils m'appelle de Jérusalem pour me rappeler que c'est le 40e anniversaire de notre mariage, mon épouse et moi.
Mazel tov.
Voilà.
Mazel tov. Mazal Tov vient mouler les têtes, sa mère.
Alors, tout ça pour dire que les Chachamim nous disent que l'homme doit faire tshuva un jour avant sa mort. Là-dessus, mais tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Alors fais tshuva tout de suite, comme on dit dans le verset. Bechol yom iyu begadecha levanim. Que chaque jour tes vêtements soient propres. Donc là, c'est une dimension de faire teshuva. Et c'est autour de ça, je pense, que notre étude va tourner. Qu'est-ce que ça veut dire, faire teshuva? Et est-ce que c'est possible de faire teshuva? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, disons que ce que nous vivons, là, cette épidémie se résolve, s'arrête, et qu'on sorte du confinement à un moment T. Disons qu'on sorte. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on aura tiré quelque chose de ce confinement, de ce que nous vivons? Est-ce qu'on aura tiré quelque chose? Alors évidemment, il y aura des bibliothèques qui vont s'écrire là-dessus. A posteriori, on peut toujours tirer des théories. Mais prospectivement, on n'en sait rien. A posteriori, on peut écrire des bibliothèques. Mais comment intégrer ce que nous vivons, qui est très très particulier? Parce que là, on est chez nous. D'abord, il y a des gens qui m'ont posé des questions. Peut-être que est-ce qu'il y a encore la mitzvah de faire le seder? Le seder, c'est un moment, un grand moment de convivialité. Alors la Mishnah, plutôt la Beraita, dans le traité Psachim, aborde la question si la personne est seule le soir du Seder. La Mishnah, je vais vous la citer. Avkuf Tet Zayin. Dans ma sechet psachim, la Mishnah dit Tanu Rabbanan. Chacham beno shoalo. Si son fils est chacham, son fils se pose la question. Vimeno chacham, ishto shoelato. Et si son fils n'est pas chacham, ça veut dire qu'il n'a pas l'âge de poser la question. Ishto shoelato, sa femme lui pose la question. Manishtana. Vimlav, et sinon, ça veut dire s'il est seul, Usholeatzmo Manishtana, il se pose la question à lui-même, Manishtana, Laila Azé, Mikol Alelot. S'il est seul, il se pose la question. Donc ici, on vit la possibilité d'être seul. Alors, c'est sûr que. Moi je n'utilise pas ça, mais on m'a dit que beaucoup de gens utilisent des films, le Netflix, que sais-je, pour rentrer à l'extérieur, à l'intérieur. Mais concrètement, on est seul, qui est une épreuve de se retrouver seul quand on est habitué de vivre avec les autres. Il y a un maître actuel, Rav Reuven Leurter a écrit un texte très beau la semaine dernière sur ce sujet, que c'est une possibilité qui nous est donnée de nous retrouver avec nous-mêmes et de nous positionner nous-mêmes avec nous-mêmes. Mais il y a eu aussi une autre épreuve, c'est de se retrouver, si quelqu'un n'est pas seul mais il a une famille, de se retrouver confiné avec sa famille. Alors plusieurs me disent, et je vis aussi, que c'est la possibilité de se retrouver avec son épouse, se retrouver avec ses enfants, et d'essayer de faire qu'on puisse vivre harmonieusement les uns avec les autres. Prendre du temps. Prendre du temps. Maintenant, si les choses on sort du confinement, est-ce qu'on ressortira avec cette frénésie, peut-être encore plus grande frénésie de l'extériorité que nous avions avant le confinement? C'est fort possible. C'est fort possible. Comment tirer quelque chose de ce que nous vivons? Alors, je vais vous rapporter deux exemples de grands maîtres de notre tradition. Il y a un grand maître qui a vécu la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelle Rav Yechezkel Levinstein. Rav Yechezkel Levinstein, si je ne m'abuse, il est né à Lodz, comme mon père, d'un milieu chassidique. Et il est allé à l'Yeshiva de Mir. Il est allé à l'Yeshiva de Mir en Lituanie. Et la Yeshiva de Mir, de manière extraordinaire, pratiquement toute la Yeshiva a réussi à prendre, en 41, si je ne m'abuse, le Transsibérien et s'est retrouvé en Chine. Il s'est retrouvé en Chine. Et ils ont réussi à survivre. Toute la Yeshiva. Quand tous les autres qui sont restés en Lituanie ont été massacrés, comme chacun sait. Il paraît que pour ne pas oublier cela, pour ne pas oublier, Rav Yechezkel Levinstein, jusqu'à sa mort, il ne s'est jamais adossé sur un dossier de chaise. Il a pris sur lui, pour ne pas oublier ce qu'il a vécu, un exemple, quelque chose de pratique dans le quotidien, un geste dans le quotidien pour ne pas oublier ce qui s'est passé. Ça, c'est un point qu'il a concrétisé par quelque chose, un acte. Autre chose, Rav Abitbol nous a raconté il y a X années que à Ber Yaakov, lui il était à l'yeshiva de Ber Yaakov où il y avait Rav Olbeh. Et à Ber Yaakov, il y avait un séminaire de jeunes filles. Donc ça c'était dans les années 50. 950. Quelque chose, 50 quelque chose. Et au séminaire de jeunes filles, les jeunes filles avec leur monitrice sont allées à la plage en Israël. Voilà. Et il y a sur les plages en Israël des courants parfois qui sont très dangereux. Même à eau peu profonde, il y a des courants très 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 forts. Et il y a deux filles du séminaire qui se sont noyées. Alors, les monitrices, elles qui étaient responsables, qui avaient la responsabilité de ce groupe de jeunes filles, comment survivre à quelque chose comme ça? Comment survivre à une responsabilité pareille? Tu organises une sortie avec les jeunes filles. Il y a eu un coup du sort, je ne sais pas quoi. Deux filles se sont noyées. Et c'est toi qui as organisé. Alors, tu vas dire, ça arrive. Ça arrive. Mais dans notre tradition, ce n'est pas comme ça qu'on voit les choses. C'est pas comme ça, la tradition juive, c'est pas comme ça qu'il y a on est responsable, on a une responsabilité. Alors comment survivre à ça? Comment survivre? Nous a rapporté Rav Abitbol, ces jeunes filles sont allées voir le grand maître de l'époque, le stapler, Rav Yaakov Israel Kanievski, le père du Rav Chaim Kanievski actuel. Elles sont allées voir Rav Kanievski. Paraît-il que Rav Kanievski leur dit la chose suivante. Regardez, dans le Shulchan Arour, il y a plein de détails. Est-ce qu'il y a un détail dans le Shulchan Arour que lorsqu'on se coupe les ongles, on ne doit pas couper d'abord les ongles des mains et les ongles des pieds en même temps. Et lorsqu'on coupe les ongles, on doit couper pas les ongles suivis. Par exemple, 1, 3, 5, 2, 4. Et pareil pour la main droite. Mais pas suivi. Alors le stapler leur a dit, est-ce que ce détail de la halakha, vous le faites? Alors, les filles, elles ont dit non. Donc, à partir de maintenant, prenez sur vous de faire cette halakha. Quand vous coupez les ongles, lorsque vous coupez les ongles, eh bien, vous prenez sur vous cette halakha de ne pas couper les ongles, les doigts suivis, mais de manière en sautant et en revenant. Voilà. Et bracha ve'atzlacha, et que vous ne fassiez pas de soucis. Donc, ça veut dire, ça veut dire, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on peut dire à minima que les choses, chez nous, êtres humains, ça passe par des actes concrets. Et il faudra réfléchir comment, par un acte concret, concrétiser le souvenir de ce que... Parce qu'un souvenir, c'est fugace. Prenons un exemple. Il y a des gens qui ont été traumatisés parce qu'il s'est passé dans la Seconde Guerre mondiale. Après, ils ne parlent que de ça. C'est le devoir de mémoire. OK. Mais c'est trop énorme. C'est énorme. Tu ne peux pas encaisser ça. Notre tradition, la tradition juive, ça passe par des actes concrets. Pas besoin d'en faire tout un baratin. Mais nous essaierons de prendre un acte concret pour intégrer ce qui s'est passé. Maintenant, il se trouve que là, nous sommes à une semaine de Pessah. Et nous avons étudié les deux dimanches matins derniers dans le Gvurot Hashem, le commentaire du Maharal sur la Matzah. Et il me semble que de manière, c'est plus que prophétique, c'est-à-dire puisqu'on dit que Dieu a regardé dans la Torah avant de créer le monde, c'est-à-dire que le monde est fondé sur la Torah et sur les mitzvot, et que là, ce que nous sommes en train de vivre se passe juste dans la préparation de Pessah et la fête de Pessah, que la fête de Pessah, les détails de la fête de Pessah sont extrêmement, extrêmement coïncident, me semble-t-il, à ce que nous sommes en train de vivre. Alors, je pense que certains d'entre vous ont suivi l'étude du dimanche matin à 9h hier et il y a une semaine, mais je le reprends parce que, si vous voulez, le but de nos études n'est pas d'épater la galerie. Moi, je ne cherche pas du tout à épater la galerie, je ne cherche pas à sortir, je ne suis pas un prestidigitateur qui sort de mon chapeau des choses merveilleuses, mais ce qui est important, c'est d'étudier les textes et de les intérioriser, de faire que la Torah puisse être quelque chose de vécu, Donc, plus on révise, plus on reprend, plus on peut intérioriser les choses. Alors, au début du Seder, dans la Haggadah, on prend la matzah et on dit « Alachma anya dachalu avatana be'ara de mitzrayim kol dirfin yetev yechul kod yitzrir yetev yifsar achata acha le shana abba be'ara d'Israël achata avde le shana abba be'nero » Voilà le pape, on montre la matzah et on dit « Voilà le pain pauvre que mangeaient nos pères dans la terre d'Égypte. Tout celui qui a faim, qui vienne manger, tout celui qui a besoin, qui vienne faire le sacrifice de Pessah. » Alors, la question, que symbolise la matzah ? Que symbolise la matzah ? Alors, le texte rédigé en araméen, pourquoi rédigé en araméen ? C'était la langue que les gens parlaient. Si on parle en français, on parle en français. Et voilà le pain pauvre que mangeaient nos pères. Si on parle en ladino, c'est en ladino. Il y en a qui savent dire ça en ladino parmi nos sympathiques candidats. Là. Silence.
Mon papa.
Comment ?
Mon papa.
Qu'est-ce qu'il a, ton papa ?
Ben lui, il sait dire en ladino quelques prières de la Haggadah.
Mais là, c'est pas passé, quoi, je sens, là.
Non.
D'accord, ok. Ok. Donc, en ladino, si on dit en ladino, c'est en ladino, c'est en arabe, c'est en arabe. Si c'est en yiddish, c'est en yiddish. Donc, voilà le pain pauvre que mangeaient nos pères. Alors, dont Isaac Avrabanel, dans son commentaire Birkat Hazevar sur l'Haggadah de Pessah, a dit que c'est quoi le pain pauvre que mangeaient nos pères, c'est-à-dire que le sens simple, c'est que les gardes Shioum donnaient de l'azim à nos pères qui étaient esclaves, parce qu'ils leur donnaient très peu à manger, ils leur donnaient des choses indigestes pour qu'ils ils ressentent qu'ils aient toujours quelque chose dans le ventre. Et pour se souvenir donc que nous étions esclaves en Égypte, on mange ce pain indigeste que mangeaient nos pères en terre d'Égypte. Donc ça, en vérité, c'est la traduction précise de la phrase. Mais le Maharal de Prague va s'opposer frontalement à cela au chapitre 51. Il va dire que ce n'est pas logique. Ce n'est pas du tout logique. Et il va dire donc que pour ceux qui ont les photocopies ou qui ont le Gvurot Hashem, il va dire, je vais le lire, hein, je vais le lire, et j'espère que vous ne m'en voudrez pas de faire de la lecture, mais petit à petit, on va rentrer dans le sujet. Il dit, Lama kara oto beshem oni, parce que la Torah, dans Parashat Re'e, dit Shivat Yamim Tochal Matzot Lechem Oni. 7 jours vous mangerez des Matzot Lechem Oni, un pain pauvre. Et la mitzvah d'après la Torah, c'est de manger de la Matzah le soir du Seder. C'est-à-dire que si on veut manger des pommes de terre tout Pessah, on peut manger des pommes de terre. L'obligation de manger la matzah, c'est le premier soir. Hors d'Israël, c'est les 2 premiers soirs. Et pourquoi le premier soir ? C'est le soir de la sortie d'Égypte. Alors, il dit, le Maharal, pourquoi on appelle pain pauvre ? Parce que quel est le lien entre la pauvreté dans la richesse de la libération ? Le soir de la libération, la Torah nous enjoint de manger un pain pauvre. Quel est le lien entre la pauvreté et la richesse de la Omnam. Pirush Adavar, explication. Kamatsa nikra lechemoni efer matsa ashira. La matza est appelée un pain pauvre, le contraire de la matza ashira. La matza ashira, c'est-à-dire à Pessah, on peut manger de la matza pétrie, par exemple, avec du jus d'orange, pétrie avec du vin, c'est kasher. Les ashkenazim ont le minhag de ne pas en prendre, mais fondamentalement, c'est kasher. Ça s'appelle la matza ashira. Et donc, dit, c'est pas un pauvre, contre un matzah shira. Chez Kasher, Yeshba, Shemen ou de vache. C'est quoi un matzah shira? C'est, tu mets de l'huile, tu mets du miel, elle est enrichie. Ça enrichit le pain. Mais Zekiani, Shelo, Ela, Atzmo, Velo, Mamon, Rakatzmo, Vegufo. Le pauvre, il n'a que lui-même. Il n'a pas d'argent. Il n'a que son corps. C'est quoi un pauvre? Il a lui. Va matza gamken, kasher en barak etsem aïssa. C'est quoi la matza? C'est la pâte basique. C'est quoi la base de la pâte? Mayim va kemar. C'est de l'eau, de la farine. Point. On ne rajoute pas de levain. C'est le basique. C'est l'essence de la pâte. Ou basé avec les remonis, c'est un pain pauvre. Vimiejbo seor, ou chametz. Alors, si tu rajoutes du levain, ou bien le chametz. C'est quoi le chametz? Le chametz, tu laisses lever. Tu rajoutes à la base de la pâte le facteur temps. Donc, le facteur temps va lever et par ce facteur temps, ça va enrichir par le facteur temps. Zehu yoter ashir mi matza ashira. C'est encore plus que la matza ashira que matza ashira. Il y a un liquide, c'est la richesse. Mais si tu rajoutes un élément extérieur, soit le levain, soit le concept de chametz qui est le facteur temps, ça sort de la simplicité de la pâte. C'est pour ça que la matza est appelée les renouni. Maintenant, tu vas me poser la question, dit le Maharal. Quel est le lien entre la pauvreté et la liberté? En vérité, ce sont deux antagonismes, deux opposés. La liberté, la pauvreté. Le pauvre, comme les Chachamim nous disent, Ani Kemet. Un pauvre, il ne peut rien faire. Il n'a pas de quoi s'acheter un allemelin. Bon, je l'avais déjà dit au cours la semaine dernière, mais ça ne fait réagir personne. Il n'a même pas de quoi s'acheter un allemelin. Est-ce que quelqu'un connaît la référence?
Non, explique-nous.
Si, c'est la chanson, non? Je sais plus.
Quelle chanson?
C'est une vieille chanson, je ne pourrais pas vous dire, mais j'ai déjà entendu ça.
Qui c'est qui parle?
Ouais, c'est Reggiani.
Reggiani, qui? Voilà, quelle chanson?
Ça, je sais plus.
Venise n'est pas en Italie.
Oui, voilà, évidemment.
Je vous conseille, Venise, n'est-ce pas Damien? Parce que c'est une rime assez riche. C'est non, ça veut dire, Venise n'est pas en Italie, machin. Il n'a même pas de quoi s'acheter un aller Paris-Melun. Voilà. Donc, il peut même pas aller même dans la grande banlieue. Il n'a même pas. Donc, c'est un pauvre, il est coincé. Donc, en quoi la pauvreté est liée à la libération? Enzekashia. Ce n'est pas une question. Kaniyut. Beatzmo ora geula. La pauvreté nous enseigne sur la libération. Sheen inyan a geula, rak sheyotse. C'est quoi la libération? C'est sortir de l'esclavage. C'est sortir de l'esclavage. Pour ça, il faut être comme la matza. Il faut être pauvre. Quelqu'un, il a 4 magasins. Il a 20 magasins. Une chaîne de magasins. Et comme en Espagne, par exemple, il y a 500 ans, un peu plus, il y a eu le décret d'expulsion d'Espagne. Il paraît que les gens simples, beaucoup, sont partis d'Espagne. Mais il y avait des gens qui avaient des propriétés, qui avaient des entreprises, des investissements. On l'a dit, dans 4 mois, il faut partir. Je ne peux pas. Mes parents ont construit une entreprise. Moi, j'ai repris cette entreprise, j'ai développé cette entreprise. Je ne peux pas partir. Je suis un entrepreneur. Je suis un investisseur. Je suis quelqu'un de riche. C'est quoi? Et au moment de partir, au moment de sortir, il faut ne pas être dépendant. Il faut être comme un pauvre. La matza, c'est pas l'expression de la liberté, c'est l'expression de la sortie à la liberté. C'est l'expression de la sortie à la liberté. Pour sortir à la liberté, il ne faut pas être dépendant d'autre chose que de soi. Lo kemo haeved, l'esclave, il n'est pas autonome. Il se définit par son maître. Son maître lui dit, fais ci, fais ça. Il se définit par son maître. Yeshlo tsirouf el zulato, comme on voit, Eliezer, l'esclave d'Abraham, arrive à Haran, chez Betuel, le père de Rivka, il lui dit, Eved Avraham Anori, esclave d'Abraham, je suis. Mais dis-nous qui tu es. Je suis l'esclave d'Abraham. Il se définit par autre chose que lui-même. C'est ça la matza. C'est ça la matza. La matza n'est pas l'expression de la liberté. Parce que être pauvre n'est pas du tout un but dans la vie. Mais la Torah, à Pessah, nous éduque. Nous éduque en enlevant le chametz, en bannissant de notre existence le chametz. Dans l'étude talmudique que nous faisons le dimanche matin et le mercredi soir, nous étudions là, en préparation de Pessah, Bitul Chametz. D'après la plupart des commentateurs, l'annulation du chametz, c'est se déconnecter complètement du chametz. Bitul chametz, je me déconnecte du chametz. J'enlève le chametz de mon domaine. Je ne veux plus du chametz. Le chametz, il va le définir encore plus dans la suite. Donc, qu'est-ce que c'est la geoula, la libération? C'est sortir de la dépendance, d'être défini par des choses qui s'associent à nous. Par exemple, quelqu'un, il a un compte en banque, il se définit par son compte en banque. Il se définit, j'ai un appartement à Miami, j'ai un appartement à Cannes, j'ai un appartement à Deauville. Ça me définit, j'ai une belle voiture, ça me définit, j'ai un beau costume, ça me définit. Alors, tout ça, c'est bien en vitesse de croisière, mais il y a des moments, il faut se définir par soi-même. Si je n'arrive pas à me définir par moi-même, je ne peux pas. Je reste dépendant, je reste esclave. Ça, c'est la première dimension. Première dimension. Ensuite, le Maharal va développer. Veot teda, sache de plus. Er amatsa shilechemoni shayar la geula. Il faut aussi que tu saches combien la matsa, qui est le pain pauvre, est liée à la libération. Ki ani shelo davar ze inyan pshitut kasher uomed beatzmo. Donc la première dimension, c'est le fait de se définir par autre chose que soi-même. Ensuite, le Maharal va rajouter une notion supplémentaire. Le pauvre qui n'a rien, c'est la dimension de la simplicité. Il se tient par lui-même. Vedavarze im sheu chisaron nircha b'olam hazeh sheolam harkava malato b'harkava. Cette chose, être pauvre, c'est une inadaptation dans ce monde, parce qu'un pauvre ne peut rien faire dans ce monde. Bien que ça soit considéré une inadaptation dans ce monde, un manque dans ce monde, parce que le monde dans lequel nous vivons est le monde, un monde complexe. Et la définition de ce monde est la complexité. Mikol makom apshitut mala i metzad olam apashut. Mais la simplicité est la qualité d'un monde simple dans lequel il n'y a pas cette complexité. Balayla azé ayut tsririm et la geoula. Et cette nuit-là, ils avaient besoin, les enfants d'Israël, de la libération. La libération n'est pas une dimension interne à ce monde-ci, mais c'est s'immisce dans ce monde complexe, une dimension non complexe. La Géoula ne vient ici. Ici, le Maharal va développer quelque chose que mon ami Avraham Lamberger a mis en allusion jeudi soir. Il y avait eu une petite fête en vidéoconférence pour la bar mitzvah de notre fils Neria. On a fait une bar mitzvah en vidéoconférence. Et mon ami Avraham Lamberger a rapporté le Maharal dans Netzar Israël, 30e chapitre. Les Chachamim dans le traité Psachim disent qu'il y a des choses que l'homme ne peut pas savoir. Il y a des choses qu'on ne peut pas savoir. Et c'est lié à notre réalité dont on parle. On ne sait pas comment l'empire d'Ésaü, c'est-à-dire la civilisation occidentale, va sombrer. On ne sait pas comment elle va sombrer. À un moment, on sait qu'elle va sombrer, mais on ne sait pas comment. Et on ne sait pas non plus comment la royauté du roi David va émerger. Le Maharal développe que le royaume d'Ésaü n'engendrera pas la royauté de David. Parce que la royauté de David, qui est une réalité sur terre, mais complètement inouïe, ne peut pas être une suite logique du royaume d'Ésaü. Le royaume d'Ésaü trouvera toujours des moyens de retomber sur ses pieds et on ne sait pas comment il va s'effondrer. Parce que le royaume de David est quelque chose, n'est pas la suite logique. C'est ce que dit le Maharal ici. Le Maharal de Prague ici reprend cette même thématique. On est dans un monde complexe. La libération s'immisce une réalité complètement différente qui est une dimension simple, d'une simplicité. La simplicité n'est pas adapté à ce monde. Mais il y a un moment d'une inadaptation à ce monde qui est l'émission de la Géoula. À ce moment-là, il y a une dimension de pauvreté. Parce qu'on est dans un monde mourkave. Regardez, il faut essayer de décrypter, je pense qu'on ressent ça, on vit ça. Aujourd'hui, on vit une baffe incroyable. Quand il y a des guerres, c'est des grosses des guerres, il y a eu au siècle dernier des guerres mondiales. Les guerres mondiales, ce sont des baffes incroyables. Mais tu peux dire, oui, c'est la faute des nazis, c'est la faute des fascistes, c'est la faute du grand capital. Mais là, aujourd'hui, c'est la faute à quoi ? C'est la faute à quoi ? C'est la faute à quoi ? On n'a pas mis les bouteilles en plastique dans les containers jaunes. C'est la faute à quoi ? C'est quelque chose qui nous dépasse. Or, si on écoute les médias, je ne parle pas des médias juifs, je parle des médias généraux. Je ne parle pas non plus des médias islamistes. Hein. Peut-être que parmi vous, il y en a qui écoutent les médias islamistes. Je parle pas des médias occidentaux. Combien la France va importer de masques sanitaires ? Combien il faut se laver les mains ? Tout ça, c'est tout à fait légitime. Il faut le faire. Mais on peut peut-être s'interroger sur ce qui se passe. On peut peut-être s'interroger, mais interrogeons-nous sur ce qui se passe. Profitons de cette déstabilisation pour s'interroger, pour se poser des questions. Non, non. Il y a une question très importante. Le confinement va-t-il durer 2 semaines ou 3 semaines ? Bon, ça va. Dis-nous tout de suite que tu ne sais pas. Détends-toi. Sois tranquille. Dis que tu ne sais pas. Dis que tu ne sais pas, comme tout le monde. Sois simple. Voilà, c'est ça. Sois simple. La dimension ici, c'est la dimension de simplicité. Et là, le Maharal va continuer. Le Ficar. Siva le rol matza lechem oni. C'est pour ça que Dieu nous a enjoint de manger du pain pauvre. Chou lechem apachut, qui est un pain simple. Chare enbo davar, il n'y a rien que le basique. Il y a les ingrédients les plus simples, farine, eau et pas de facteur temps. Le minimum pour que ça cuise et que ça ne lève pas. Mipne, chez Balaïla, Zé Ayouni Galim, car cette nuit-là, ils ont été libérés. Bemadrega à Eliona. Ils sont arrivés à un niveau supérieur du monde de la complexité. C'est pour ça que Dieu nous a enjoint de manger un pain qui représente cette simplicité. Et là, c'est le cœur de ce que je veux voir avec vous. Et quand nous l'avons vu hier matin, j'ai été très bouleversé et c'est ce point que je veux voir. Le Maharal aurait pu s'arrêter là, mais pour nous faire comprendre la chose, il rajoute la chose suivante. Dimayonze, Kohen Gadol, ça ressemble à quoi ? Au grand prêtre, toute l'année, il fait le service avec des vêtements en or. Le Kohen Gadol, un Kohen simple, a 4 vêtements en lin blanc. Plutôt en lin écru. Bien. Le grand prêtre a 8 vêtements extrêmement complexes. La complexité même. Parce que le Kohen Gadol, le service au temple, c'est prendre tous les éléments de ce monde qui servent Dieu. D'ailleurs, dans la Ketoret, dans l'encens, il y a 11 espèces. Il y a une espèce qui s'appelle Mor, l'autre s'appelle Ketsia. Il y a un débat entre Maïmonide et le Réved, Rabbi Avraham Ben David de Poskier. pour savoir qu'est-ce que c'est mort. Il y en a qui disent c'est la myrrhe. La myrrhe, c'est une plante. Ça, c'est le Reven. Mais Rambam, il dit c'est du sang. C'est du sang, si je ne m'abuse. Il y a un animal qui s'appelle la civette qui donne le musc. C'est du musc. Le musc, c'est du sang qui vient de glandes d'un animal qui s'appelle la civette, un animal pas cachère. Et cette glande sécrète une sécrétion très, très odoriférante. Et Maïmonide dit qu'on prend ce musc qu'on met parmi les 11 espèces de la Kétoret. Le Reven dit, c'est pas possible. Parce que toutes les choses qui participent du culte, du service au temple, ce ne sont que des choses cachères. Or, le musc vient d'un animal pas cachère. En vérité, c'est une sécrétion de sang qui n'est pas cachère lui-même. Réponse de Maïmonide, oui, mais le musc vient d'un animal pas cachère, mais comme il est cristallisé, il devient dur comme de la pierre, il perd son élément animal et devient comme un minéral. Un aliment qui devient comme un minéral perd son statut d'aliment et devient cachère. Ça, c'est la thèse de Rambam. Qu'est-ce qu'on voit de là ? On voit de là que tous les éléments, même les éléments pas cachères, sous une forme transformée, participent au service de Dieu au temple. Donc le Kohen Gadol, il a ses 8 vêtements qui représentent, dit le Maharal de Prague, la complexité, le faste du monde, qui le faste est extrêmement complexe. C'est plus qu'un vêtement d'un très grand couturier. C'est le faste même qui est la dimension de ce monde-ci. Mais, dit le Maharal, à Yom Kippour, il va rentrer dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim. Il va rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Pour cela, il doit enlever ses vêtements somptueux et mettre des vêtements blancs les plus simples possibles. Et le Maharal, donc, compare la matzah, qui est l'aliment le plus simple qui soit, aux habits du Kohen Gadol à Yom Kippour quand il rentre dans le Saint des Saints. Le Maharal, comme d'habitude, n'explique pas plus que ça. Je propose d'expliquer la chose suivante. Le Maharal ici nous invite à nous interroger comment peut-on faire tchouva. Comment on peut faire tchouva? On ne peut pas. D'ailleurs, c'est ce que nos maîtres disent, que la tchouva a été créée avant la création du monde. Comme la Torah est avant la création du monde, la tchouva a été créée avant la création du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme je l'ai dit la semaine dernière, et je le répète, pourquoi notre ami qu'on aime bien, Emmanuel Macron, Édouard Philippe, une équipe sympathique, pourquoi le seul langage qu'on entend, peut-être ça va changer, hein, le seul langage qu'on entend, c'est, regardez, on prend nos responsabilités. Et c'est vrai, ils prennent leurs responsabilités. On va allonger un peu le confinement jusqu'à une date renouvelable. Ok. On importe et on fabrique beaucoup de masques. C'est très très bien, il faut le faire, c'est magnifique. Mais tu ne peux pas dire que tu ressens quand même un ébranlement, que regardez, on vous a saoulé pendant des années sur la transition écologique. On s'est trompé, c'est pas ça le problème. Il y a d'autres problèmes dans l'humanité, il y a peut-être des problèmes plus profonds que ça. Arrêtons de nous raconter des salades. Pourquoi ils ne racontent pas ça? Pourquoi? Peut-être qu'il y a des choses qui nous dépassent depuis 200 ans avec le siècle des Lumières. On a cru pouvoir maîtriser les choses. Et là, on voit qu'on ne maîtrise rien. Essayons de réfléchir là-dessus. Ah mais non, c'est pas possible. Donc c'est où est-ce que vous nous amenez? C'est comme quelqu'un, par exemple, moi en tant qu'homme de gauche, je me dois de. D'accord. Et est-ce que sous la douche, tu es encore un homme de gauche? Ça veut dire en tant qu'homme de gauche, je me dois de. Ou en tant que juif orthodoxe, je me dois de. Mais tu n'es pas juif orthodoxe, c'est une complexité, tu ne peux pas faire tchouva. Tu ne peux pas t'interroger. Si tu es un juif orthodoxe, ou à l'autre, il dit oh, bon, okay, laissons l'orthodoxie, moi je suis un juif libéral. Ok, d'accord. Tout ça, c'est des étiquettes. Tout ça, c'est des choses qui nous empêchent de faire tchouva. À un moment, il faut enlever cette complexité. Si, si tu es dans tes étiquettes, tu ne pourras jamais te reprendre. Quelqu'un, il a fauté. Par exemple, il a mangé pas cacher pendant des années. Et il est avec ses collègues qui le connaissent, avec qui il a fait le repas d'affaires. Bouger quelque chose dans ma vie, quelque part, c'est remettre en question son insertion jusqu'à maintenant. Mais je ne peux pas. Parce que ce serait ébranler ce que j'ai fait. Donc, ça voudrait dire que je suis dépendant de ce que j'ai fait. Je ne peux pas faire tchouva. On ne peut pas. On ne peut pas faire tchouva. C'est pour ça, le Maharal nous dit, le Kohen Gadol, à Yom Kippour, il enlève ses habits d'or. Il enlève ses habits d'or. Pour rentrer dans le Kodesh HaKodashim, il doit, à l'intérieur de ce monde-ci, insérer une dimension. Qui est la dimension? Qu'est-ce qu'il y a dans le Kodesh HaKodashim? C'est la dimension de la Torah, le Aaron HaKodesh, qui est dans ce monde-ci, mais qui n'est pas une dimension de ce monde-ci. Qui est cette dimension où il enlève cette complexité. Enlever cette complexité, le Kohen Gadol va nous aider à accéder à cette chouva. Le Kohen Gadol, lui, en rentrant, il nous aide, tout le Ham Israël et peut-être même toute l'humanité, par ricochet, à accéder à une possibilité de faire de chouva. Une fraîcheur, une simplicité qui peut nous faire de chouva. Et ça, dit le Maharal, c'est ça la matzah. La matzah que nous allons manger, ce pain pauvre, ce pain simple, c'est que nous vivons en vérité. Là, regardez, c'est invraisemblable. Les banques sont... On veut faire la moindre le transaction, machin. Les banques, moi je vais au guichet de la banque, c'est fermé. C'est invraisemblable. Invraisemblable. Les moindres choses complexes aujourd'hui sont dans cette simplicité. Il y a ici une capacité qui nous est donnée. Une capacité nous est donnée d'accéder à une autre réalité, qu'accéder de nous disponible à une autre réalité. Donc c'est ça ce que je voulais voir. Je voulais voir avec vous ce point, que cette matza, en vérité, là, on est dans le monde est construit sur la Torah. Comme dit le Midrash au début du Midrash Rabbah, dans Bereshit Rabbah, Akadosh Baruch Hu a regardé la Torah et a créé le monde. Et le monde, la réalité que nous vivons, cette réalité que nous vivons, a en écho les mitzvot que nous vivons actuellement. Les mitzvot que nous vivons actuellement, c'est rechercher le chametz, détruire le chametz. Et d'ailleurs, cette unité entre le chametz et la teshuvah, je vais vous lire comment Maïmonide parle de Bitul Chametz. Il parle de Bitul Chametz exactement comme il parle de la teshuvah. Je vais vous rapporter Maïmonide que j'ai ici.
Juste Rav.
Oui.
Oui, vous tenez qu'on ne peut pas faire de tchouva, vous avez dit, ou votre masque, c'est qu'on peut faire.
Qui intervient?
Noé.
Comment?
Noé, c'est Noé.
Oui. Oui, c'est-à-dire que. La teshuva est introduire dans notre existence une autre dimension. C'est... Prenons un exemple. La Mishnah dans le traité Yoma dit, dans le dernier chapitre, dit, quelqu'un il dit, je vais fauter et après je vais faire teshuva. Dieu ne lui donnera pas la possibilité de faire teshuva. Prenons un exemple. Il y a quelqu'un, il est accro aux pizzas de Pizza Hut. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais j'imagine, c'est un concept, hein, c'est une parabole. Je n'ai jamais mangé de Pizza Hut, mais je prends un exemple que je ne connais pas, mais disons. Quelqu'un, imaginons, quelqu'un, il est accro. Il dit... Et il a écouté sur un site juif que ce n'était pas cachère et qu'un juif ne doit pas manger des pizzas de Pizza Hut. Qu'est-ce que je vais faire? J'aime trop les pizzas de Pizza Hut. Ça me fait trop mal au cœur. Je veux faire tchouva. Pour rien. Je mange encore des pizzas de Pizza Hut. Le mois prochain, je ferai tchouva. Alors, la Mishnah nous dit que Dieu fera en sorte qu'il ne pourra pas faire tchouva.
Tchouva dans le sens regretter ou ne plus refaire l'action? Ou les deux? Enfin, tchouva dans le sens regretter?
Non, ou... tchouva, c'est changer. Non, la tchouva, c'est arrêter, changer les actes. Il ne pourra pas changer. Il ne pourra pas changer. Dieu l'empêchera de changer. Pourquoi? Quelqu'un y dit, Erté Véachouv, je ne sais pas, par exemple, il est amoureux de sa sœur et c'est réciproque.
D'accord? C'est mi-chemin.
Voilà. Et il s'aime d'amour. Il s'aime d'amour tendre. Mais il réalise que c'est interdit par la Torah. D'accord? Il réalise que c'est interdit par la Torah. Et c'est très grave. Alors, ils vont se prendre un pot tous les deux. C'était avant le confinement. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait? Bon, regarde, on continue encore un mois, Et dans un mois, on arrête. La Mishnah dit, dans un mois, il ne pourra pas continuer, il pourra pas arrêter. Dans un mois, il ne pourra pas arrêter. Pourquoi ? Parce que la teshuva n'est pas dans un cursus. C'est une émission d'une autre réalité à l'intérieur de notre réalité. C'est une rupture. C'est pas, je peux pas, je ne peux pas, comme on dit, faire un plan. Voilà, il y a un plan. Il y a un plan quinquennal. Ouais, dans 5 ans, je fais tchouva. La tchouva, ce n'est pas dans un plan. Les plans, c'est la complexité du monde. Je ne peux pas programmer la tchouva. La tchouva n'est pas programmable.
Elle est... Abba tchouva, ça se fait sur plusieurs années. Quelqu'un qui n'arrête pas de ne pas manger, cachard du jour au lendemain.
Mais la rupture, il l'a fait déjà avant.
Qu'est-ce que c'est un Abba tchouva ? Je ne sais pas.
Moi non plus, je ne sais pas exactement ce que c'est. On va dire quelqu'un qui décide, voilà, il dit je mange cachère maintenant.
Regarde, je ne veux pas faire la bégole. Moi, j'ai arrêté de manger pas cachère et de ne pas faire Shabbat du jour au lendemain. Ce n'est pas une preuve, mais j'ai fait ça perso. Hein. Je peux vous le témoigner.
Il y en a qui font ça sur plusieurs années et au final, ça marche.
Mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est Abba tchouva. Je ne sais pas.
Non, mais oublions le terme.
Abba tchouva, c'est la sociologie.
D'accord. J'entends que le terme il est codé maintenant. Alors, on va dire quelqu'un qui dit juste je prends sur moi de faire Shabbat. Je sais que ça ne va pas se faire tout de suite.
Non,
s'il vous plaît.
Oui, oui. C'est qui parle là parce que j'ai
Eric El-Kaïm.
Oui, monsieur Eric lui-même.
Voilà, donc, je peux citer ma situation, si je puis dire, puisque j'ai fait Teshuva. Il y a à peu près 2 mois le mois prochain.
Comment ? J'ai pas entendu.
J'ai fait Teshuva, ça va faire 2 ans à Shavuot prochain.
Oui.
Voilà. Et quand je suis arrivé à la Yeshiva de Nice, où les rabbanim m'ont, entre guillemets, pris en main, m'ont aidé, etc., à peu près tout le monde m'a dit, hors de question de faire la Teshuva d'un seul coup, c'est très important d'y aller lentement, et de faire une vraie bonne teshuva. Donc, ça a l'air de contredire ce que vous êtes en train de dire.
Non, regardez. Là, on parle de je prends un exemple. Un de mes plus grands amis, à un âge lambda, il a découvert plus ou moins qu'il était juif, et il est allé étudier, et il avait un métier qui ne pouvait pas, le Shabbat d'après, il ne pouvait pas arrêter son métier. Il aurait été sur la paille, d'accord ? Bon. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est des choses... Justement, regardez, c'est important. C'est complexe. On est dans un monde de complexité. Je parle de choses qui concrètement peuvent s'arrêter. Le travail, il y a des choses, ça ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain. C'est des questions même halakhiques complexes. Le mot complexe, c'est notre sujet. Mais je parle quelqu'un, il a quelque chose qui pratiquement, il pourrait l'arrêter tout de suite. Laissons le concept de Baal Tchouva. Ça, c'est de la sociologie importante, oui, mais ce n'est pas de ça dont on parle ici.
D'accord.
On parle, quelqu'un, il est pieux, il a toujours été pieux, toujours fait Shabbat, toujours mangé kasher, mais il couche avec la femme de son copain. D'accord ? Ce n'est pas un Baal Tchouva, dans le sens sociologique, mais il réalise que ce qu'il fait, il n'a pas le droit de le faire. Il le sait. Alors, il dit à sa dulcinée. Ouais, il dit à sa dulcinée, regarde ma chérie, qu'est-ce qu'on va faire ? Je sais que ce qu'on fait, c'est interdit. Bon, on se donne encore un mois, et dans un mois, on arrête. Ça, les sages disent, il ne peut pas faire le choix.
Mais Gérard, si je me place d'un point de vue extérieur, je pense, par exemple, un chrétien, il pourrait dire, votre loi, c'est tellement complexe. C'est tellement complexe, votre loi. C'est tellement difficile, tellement de subtilité, tellement... On n'y comprend rien. Suis ton cœur. Vas-y. C'est ça la réponse. Vas-y, suis ton cœur. Suis ton intuition. Oublie cette loi qui est une telle complexité. Comment tu veux t'en sortir avec ça?
Oui, quel est le lien avec la choucroute?
Ben, c'est juste que... Vous dites manger cachère, faire shabbat, c'est une grande complexité.
Oui, oui. C'est des exemples. C'est bien, notre dialogue est très important parce qu'il faut décrypter et voir concrètement de quoi on parle. Je parle de choses, disons, je ne parle pas de vous. On va essayer de continuer le Maharal. Je vais lire simplement le Rambam. Et on va continuer le Maharal. Je pense qu'on va mieux comprendre dans la suite. Il y a des grands débats dans les Rishonim, les commentateurs de la Gemara, pour savoir quelle est la mitzvah de détruire le Hametz. Donc, avant Pessah. On ne doit plus posséder de Hametz. On ne doit plus posséder de Hametz. La thèse de Rambam, et c'est la même thèse que Rashi d'ailleurs, et que le Rabbi Nissim de Gérone, qu'il y a une mitzvah à la Torah qui s'appelle la veille de Pessah, Tashbitu Seor Mebatechem. Vous arrêterez le levain de vos maisons. La veille de Pessah, vous arrêterez le levain de vos maisons. Rambam dit, Maï Ashvatazo, qu'est-ce que c'est cette mitzvah de Tashbitu, vous arrêterez le Hametz, chez Batlo Belibo, qui l'annule dans son cœur, Veyarcho Voto Keafar, qui le considère comme de la terre, Veyassim Belibo, Shen Birchuto, Hametz Klal, qui considère dans son cœur qu'il n'a plus Hametz du tout. Ça, c'est ça la base de ne plus avoir du Hametz. Mais, comme finalement, c'est un devoir des cœurs intérieurs, nos maîtres ont exigé qu'il faut enlever le Hametz concrètement de sa maison, le détruire. Mais, fondamentalement, ça pourrait suffire d'après la Torah. Je romps avec le Hametz. Je romps avec le Hametz. Alors, maintenant, je sens qu'il manque, vos remarques me montrent qu'il manque un élément important dans ce que j'ai rapporté. Il y a, jusqu'à maintenant, dans l'exposé du Maharal, il y a deux étapes. Première étape, la matzah représente la sortie à la liberté. Pour sortir à la liberté, il faut être comme un pauvre, se définir par soi-même et pas être dépendant d'autre chose. Ça, c'est un. Deuxième élément, que la matzah est un pain simple, car la sortie de l'esclavage, qui est la dépendance, c'est l'esclavage. L'esclavage est, on pourrait dire, une parabole de la complexité de ce monde dans lequel je suis esclave. Et pour sortir, il faut que Dieu introduise dans notre réalité une réalité simple, qui est la matzah, qui représente une autre réalité. La matzah, la Torah qui est un travail en élaboration constante. Mon fils Akiva m'a dit, il a étudié récemment avec un élève de Rav Eliashiv. Rav Eliashiv, qui est un des très grands maîtres de notre génération, qui est décédé, je ne sais pas, il y a 7-8 ans. Et cet élève de Rav Eliashiv a dit à mon fils que Rav Eliashiv n'a rien écrit. Il y a des écrits au nom de Rav Eliashiv, mais ce n'est pas des écrits de Rav Eliashiv. Pourquoi ? Parce que si Rav Eliashiv était considéré comme un des grands décisionnaires de notre époque, pour certains le plus grand décisionnaire de notre époque, ses décisions étaient toujours données à un temps T. Et T plus 1, cette décision pouvait changer, parce que la Torah est en élaboration constante. C'est pour ça qu'un talmudiste s'appelle un talmid chacham. C'est un élève savant, un savant élève. C'est en élaboration constante, c'est un travail constant qui n'est pas limité. Or, dans ce monde, on est dans un monde complexe et qui a des limites. La Torah nous fait accéder, Dieu nous donne une possibilité d'accéder à une dimension d'une simplicité non finie, un infini à l'intérieur d'un monde fini. C'est ça ce que représente la matzah. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, le Maharal va dire, et je pense que ça, c'est le cœur, en vérité, je suis désolé, c'est le cœur de ce que je voulais dire, mais vos remarques me font réaliser qu'il manquait l'élément suivant, me semble-t-il, que la Gemara, dans le traité Psachim, dit, la Kouftet Zayn Amoud Aleph, pardon, que qu'est-ce que c'est l'Echemoni ? Parce que tu aurais pu dire l'Echem Ani, un pain pauvre. Pourquoi l'Echem Oni ? Aïn, alors ça se prononce, ça s'écrit Aïn Nun Yud et un Cholam. Le Cholam n'est pas avec un Vav, mais avec un. Ça se prononce, mais ça ne s'écrit pas. Pour faire l'allusion au pauvre, c'est ce qu'on a dit tout de suite, mais ça se prononce Oni. Oni veut dire parler. La matzah, dit le Maharal, c'est l'echem chez Onim Alav de Vari Marbé. C'est un pain sur lequel on parle. C'est pour soi. C'est pour ça, le soir du Seder, c'est tout est organisé autour de la matzah. La matzah qui nous donne la possibilité de parler, d'avoir un échange. C'est ce que les kabbalistes disent. Le Harizal dit que Pessar, la bouche parle parce que en Égypte, la parole était en exil. Il n'y avait pas de parole en exil. Il n'y avait pas de parole en Égypte. La sortie d'Égypte est la possibilité que la bouche parle. Et il me semble, et je pense que ça c'est le cœur de la chose, que lorsqu'on parle, par exemple, moi je vais parler parce que je défends un judaïsme orthodoxe. Donc, je défends un judaïsme orthodoxe. Ou bien il y en a un qui défend un judaïsme, par exemple, le comme on dit, national religieux, d'Atileumi, ou bien quelqu'un, il va être Lubavitch, donc il a un langage Lubavitch, ou bien quelqu'un, il est, je ne sais pas, d'autres tendances, il est Chassid, oui, pas Lubavitch, mais il est Chassid, il est Satmar. Ça, me semble-t-il, quelque part, c'est un drame. Parce que ça ne s'appelle pas une parole. c'est moi, je vais défendre. Finalement, quel va être le but de mon exposé avec vous? Vous inciter à étudier la Torah, bien évidemment. Avant même de commencer, vous le saviez déjà. Donc, rien ne va s'exprimer. Rien ne va se dire. Puisqu'on sait déjà avant une parole. C'est quelque chose qui n'existait pas avant que je le dise. C'est quelque chose qui se crée. C'est un échange. Mais pour ça, il ne faut pas défendre quelque chose. Il faut être comme la matzah. Il faut être pachout. Il faut être pachout. Et ça, me semble-t-il, dans cette période de confinement, pour ceux qui ont la chance d'être avec d'autres personnes, parce qu'il y a des personnes qui sont seules, et c'est une épreuve en tant que telle, mais pour quelqu'un qui est avec d'autres personnes en confinement, il est possible que ce désert incroyable, cette prison dans laquelle on est, cet effacement de ce qu'on connaît, peut donner la possibilité de parler. C'est quoi parler? Et hier, je pense qu'il y a des personnes qui étaient là à l'étude hier et qui sont encore ici ce soir. Il y a notre ami Yochanan Yitzhak. Tu es là, Yochanan Yitzhak? Bon, je ne sais pas.
Non, il n'est pas là.
Ben, d'accord. Notre ami Yochanan Yitzhak a dit quelque chose de très intéressant hier, que nous avons vu que il y a quatre fils. Ça, c'est ce que je vous ai rapporté, c'est le chapitre 51 du Gvorot Hashem. Hier, on a vu dans le Peret, chapitre 53. Le Maharal, à un moment, il dit quelque chose de bizarre. Il y a quatre fils. Il y a le Racham, le Racha, le Tam et celui qui ne s'est pas posé de questions. À un moment, le Maharal dit, la question de celui qui ne s'est pas posé de questions dans la Torah se trouve au sujet de la Matzah. Le Maharal dit, la question de celui qui ne s'est pas posé de questions. Qu'est-ce que ça veut dire? La question de celui qui ne s'est pas posé de questions. Qu'est-ce que c'est? La question de celui qui ne s'est pas posé de questions. Moi, quand je l'ai lu la première fois, je l'ai lu la deuxième fois, je l'ai lu la troisième fois, je me suis dit, il y a une erreur de typographie. Mais avec l'échange que nous avions fait hier, il est ressorti. Il ne s'est pas posé de questions. Il a peut-être quelque chose à dire. Peut-être on n'est pas assez libre, assez disponible pour qu'il puisse parler, pour qu'il puisse dire sa question. Il faut être disponible, il faut être libre. Il faut être libre. Pour qu'il y ait une parole, il faut être libre. Le soir du Seder, il y a une parole, c'est quoi? La parole, il faut être libre pour qu'il y ait une parole. Il y a depuis trois semaines, nous avons la chance d'avoir un nouveau gendre dans la famille, Reuven Ohayon. Et il m'a dit quelque chose de très intéressant. Que lui, il est dans une yeshiva de Brisk. Une yeshiva de Brisk. Et il y a une tradition dans les maîtres de yeshiva de Brisk que quand tu parles avec un des maîtres de tes problèmes, il prend tout son temps. Ça peut prendre une heure, ça peut prendre deux heures, trois heures, quatre heures, cinq heures. Et je peux témoigner que perso, lorsque j'étais jeune homme, je suis allé plusieurs fois voir un maître de cette famille, là, Soloveitchik, à Zurich, Rav Moshe Soloveitchik. Je suis allé le voir la première fois, j'avais 19 ans. Je suis allé le voir d'autres fois. Et jamais il disait, voilà, ça y est, la conversation s'arrête. Ça pouvait prendre des heures. Réhouven Oyon, notre nouveau gendre, là, il m'a expliqué, il a entendu pourquoi. Parce que quand on parle, des fois, quand on bavarde, au début, on parle de choses et d'autres. Et des fois, c'est à la fin qu'on dit ce qu'on a à dire. Et si tu ne prends pas ton temps, la disponibilité, le principal de ce qu'on a à dire, ce ne sera jamais dit. Donc, pour qu'il y ait une parole, et le soir de Pessah, c'est Pessah, la bouche parle. Pour ça, il faut avoir enlevé le chametz, enlevé ce qui nous, ce qui nous définit pour pouvoir être disponible, pour pouvoir être libre, pour qu'il puisse y avoir une parole. Une parole, c'est quelque chose qui n'avait encore pas été dit. Je prends un exemple simple que j'ai pris un jour précédent. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a des survivants qui sont venus. Ils ont dit ce qu'ils ont vécu et les gens n'étaient pas prêts à écouter. Ils ont dit, mais non, c'est pas possible. Ouais, t'es taré ou quoi, c'est pas possible. Ils se sont tus. C'est seulement 60 ans après que beaucoup ont commencé à parler. Parce que les gens n'étaient pas disponibles à ce qu'on puisse dire des choses. Quelqu'un a vécu quelque chose. Encore faut-il qu'on puisse être libre pour écouter. C'est pouvoir être disponible. Donc, il ne parle pas. Il ne parle pas. Il a des choses à dire, il ne parle pas, il ne peut pas parler. Tester. Presque dans notre vie, on passe notre temps à ça. Alors, on dit des banalités. On parle du foot, on parle des élections, on parle de bêtises, parce qu'on ne peut pas parler. Et ça me semble-t-il, que nous, aujourd'hui, on est dans cette simplicité, on est dans un, en yiddish, on dit un broch, on est dans un fourbi illimité, quand même, un peu de luxe quand même pour la plupart d'entre nous. Quand même, hein, on n'est pas... La plupart d'entre nous, on a de quoi manger quand même. Mais on est dans un fourbi, on ne sait pas où on va. Et d'ailleurs, le Maharal dit que Midbar, désert, c'est le lieu Midbar de Dibour, de la parole. C'est là où on a pu être disponible à écouter Dieu. Parce que dès qu'on est en terre habitée, Dieu, lui-même, il a des choses à dire. Mais ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Ça, en vérité, tout ce qu'on a dit là, c'est des éléments sur la fête de Pessah. Et c'est impressionnant que la fête que nous vivons, en vérité, nous donne des clés pour vivre et intégrer ce que nous sommes en train de vivre, de fait, physiquement, aujourd'hui. Voilà, les amis, me semble-t-il qu'on a un peu donné quelques voies, quelques démarches sur ce que on peut tirer de notre quotidien et que cette désertification même de Paris, des villes dans lesquelles nous vivons, ce désert, qu'il puisse y avoir une parole, qu'on puisse être libre, et qu'entre nous, avec les personnes avec qui nous vivons, on puisse être disponible pour qu'il y ait des paroles qui s'expriment sans « tais-toi, j'ai pas le temps » ou je sais pas quoi. Voilà, mes amis.
Amen.
Voilà. Bien.
Merci, Rav.
Ok. Allez.
Merci.
Bonne soirée.
Merci, Jean. Bonne soirée. Ah,
juste une question.
Oui.
Vous nous avez dit que pour le une façon de comprendre celui qui ne pose pas de questions, c'était qu'on n'arrivait pas à l'entendre. Mais en ramenant ce qui se passait dans les yeshiva, on vous précisait que finalement, il y a la variable temps qui peut être nécessaire pour rendre disponible l'écoute. Donc, c'est comme si d'un côté, on a enlevé le temps, la variable temps, et de l'autre côté, elle est nécessaire.
C'est pas faux.
Oui, c'est-à-dire, je reprends, c'est-à-dire tout à l'heure, j'ai dit que le facteur temps était une complexité, n'est-ce pas ? C'est ça ce que toi tu dis ?
Oui, tout à fait, qu'on l'a enlevé pour la mettre ça.
C'est vrai. Il faut que ça lève. Il faut que la parole, elle lève. C'est bien. Ok. C'est bien. Ça lève. C'est vrai que la parole, il faut des fois que ça fermente. Voilà. C'est vrai. Ok. Bien. Très bien. Merci, les amis. Bonne soirée.
Merci.